Vous êtes sur RTL.
7h45, merci d'écouter la première radio de France, Elisabeth Martichoux. Vous recevez donc ce matin Rachida Dati, eurodéputée, ancienne garde des Sceaux et maire du 7e arrondissement de Paris.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Rachida
Dati. Bonjour.
Un mot de Nicolas Sarkozy d'abord, qui s'est pourvu en cassation hier après son renvoi en correctionnel. À votre connaissance, comment a-t-il réagi ?
Oui, lui, il a toujours eu, d'abord, il exerce une voie de recours, il a raison de le faire, et puis il va très bien, et moi je le connais, quand il est sûr de ses convictions, aussi de son honnêteté, bah, il défend son honneur, et voilà, il ira jusqu'au bout pour défendre son honneur et son honnêteté.
Et voilà, et le pourvoi en cour de cassation, c'est une preuve de sa combativité ?
Ben, c'est une preuve qu'il a des choses à défendre et encore à dire. Et son pourvoi à cassation, la justice devra dire le droit. Est-ce que cette procédure est conforme ?
Et la perspective, si la décision n'est pas cassée, de le voir assis au banc des accusés, ça vous effraie ? L'ancien président au banc des accusés ?
Moi, je pense que même s'il est, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, il est d'abord présumé innocent. Donc il n'est pas, c'est-à-dire que de dire le banc des accusés c'est un raccourci, donc il sera toujours présumé innocent. Et moi je lui fais confiance et j'ai confiance aussi en la justice. Il démontrera par le droit son honnêteté.
Il ne ménage pas l'ancien président, les juges dans certaines des affaires qu'il concerne. Et aujourd'hui plusieurs partis sont poursuivis pour des soupçons de détournement de règles de financement. Le dernier à avoir hurlé au complot c'est Jean-Luc Mélenchon qui dénonce des manœuvres d'Emmanuel Macron. Vous avez été magistrate, vous avez été garde des Sceaux. La justice n'est pas indépendante en France ?
Non mais on mélange tout, mais ça arrange tout le monde de mélanger tout, comme ça on instrumentalise la justice. Que les parquetiers, le parquet ne soit pas indépendant, il n'est pas indépendant en termes de politique pénale. Et je trouve ça, ou de politique civile menée par le parquet. Je trouve ça normal.
Vous n'êtes pas pour qu'on coupe le cordon ?
Non, parce que si vous voulez, moi je pense quand les Français s'expriment, quand ils votent, quand il y a un problème d'insécurité ou sur d'autres aspects liés au droit ou à la justice, on est dans un état de droit, il souhaite évidemment, ou des inflexions ou autres. Moi je pense qu'il est important que l'exécutif puisse donner des consignes de politique pénale. Mais je suis contre...
Donc Emmanuel Macron non, mais attendez, a raison non, d'ailleurs, pas du... de vouloir
oui,
garder
oui.
ce
non,
lien
mais
organique.
Ça, parce que ça permet d'avoir la même justice sur tout le territoire national, pour tout le monde, la même justice. Parce que si demain on coupe le cordon, chaque procureur prendra, décidera d'une politique pénale en fonction... ou de spécificité, ou d'autres considérations. Moi, je préfère que tout le monde soit logé à la même enseigne s'agissant de la politique pénale. Mais il ne faut pas faire la confusion. C'est-à-dire dire, quand on dit la justice n'est pas indépendante, c'est-à-dire que ça n'est pas des instructions individuelles. On ne dit pas, allons monsieur le procureur, mettez madame Martichoux en garde à vue, allez chercher monsieur Calvi, ou que sais-je d'autre. Donc voilà.
La justice politique que dénonce Mélenchon, elle n'existe pas.
Non mais je trouve que ce qui a nui à Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement son comportement, qui n'est pas acceptable vis-à-vis des magistrats, des policiers, ça n'est pas acceptable. Mais du coup, ça a noyé, et ça a masqué les arguments qu'il a soulevé, qui pouvait être aussi entendu, de dire que, par exemple, c'est vrai que la Commission nationale des comptes de campagne a validé des comptes avec des réserves. Certaines réserves, certaines réserves pour certains candidats ont été transmises au parquet et à la justice, et ça a généré, à juste titre, des perquisitions, des actes de procédure, mais que tous les candidats n'ont pas été logés à la même enseigne. Ça, c'est un argument qu'on peut entendre.
En termes de quoi n'ont-ils pas été logés à la même enseigne ?
Il y a notamment un membre de la commission des comptes, de
vérification des comptes, qui s'est élevé publiquement pour dire que lui n'aurait pas validé les comptes de Jean-Luc Mélenchon pour des questions de surfacturation.
D'accord. D'abord, c'est un rapporteur au sein de la commission. C'est la commission qui décide. Moi, ce qui m'a choqué dans ses propos, c'est que ces rapporteurs sont soumis au devoir de réserve, et dans le cadre de la commission. Ensuite, d'aller sur des plateaux de télévision dire « j'ai constaté ça, ça et ça », ça ne veut pas dire que c'est avéré. Donc, en ce moment, il y a une confusion des choses, et là-dessus, on instrumentalise la justice, mais également la Commission nationale des comptes de campagne.
Vous dites qu'il aurait été... il a possiblement été maltraité. Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire.
C'est pas ce que je dis. Je dis que simplement son comportement vis-à-vis des policiers et des magistrats, ça n'est pas acceptable.
Mais
son comportement de dire haro sur la justice, haro sur la police, même haro sur le président de la République, ça n'est pas acceptable. Mais du coup, l'argument qu'il soulevait de dire pourquoi certains partis politiques ont été perquisitionnés, pourquoi on a été convoqués, alors que d'autres...
Il y a eu une une inégalité de traitement, à votre avis, à ce titre-là.
À ce stade, peut-être que d'autres partis dont des réserves sur leur compte de campagne ont été transmises à la justice, il n'y a pas eu encore de procédure à leur endroit.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des partis qui ont bénéficié d'une indulgence
particulière. Non, je dis qu'il y a des partis qui n'ont pas encore été soumis à la justice.
En tout cas, ce comportement que vous soulignez, celui de Jean-Luc Mélenchon, vous trouvez que ça n'est pas acceptable. Certains font lien avec cet adolescent qui a braqué un professeur. Ils font lien sur l'air de comment voulez-vous que les jeunes respectent leurs enseignants quand on voit qu'un ancien candidat à la présidence de la République s'en prend à des institutions comme la justice et la police. C'est pertinent de faire ce genre de passerelle ?
Quand vous êtes un responsable public, vous avez un devoir d'exemplarité. Vous savez, quand vous êtes un homme ou une femme publique, tout ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est comme si vous parliez dans un mégaphone. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit, il faut faire très attention à ce qu'on fait, et puis il faut aussi faire attention à son comportement. C'est vrai que le comportement de Jean-Luc Mélenchon, tout le monde a été majoritairement d'accord pour dire qu'on ne s'attaque pas, en tous les cas, à l'autorité, aux institutions incarnées par les policiers ou la justice ou les magistrats.
Pour revenir sur cet adolescent qui a braqué une enseignante, il y a Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer qui réunissent aujourd'hui un comité stratégique pour essayer de trouver des solutions à cette violence scolaire. Contre les profs, en l'occurrence. Dans l'arsenal, il y a la suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants perturbateurs. C'est une idée chère à votre camarade Éric Ciotti, par exemple. Vous y êtes pour ? Est-ce que les parents doivent être tenus responsables et sanctionnés ?
Alors, ce sujet, là, on va faire un comité stratégique sur des choses qu'on connaît depuis longtemps. Et auxquelles on a affaire depuis longtemps. Ces attaques de l'autorité des institutions, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai été magistrat, j'ai connu ça. Vous savez, j'étais aussi magistrat au tribunal de Bobigny, donc j'ai connu ça. J'ai été aussi garde des Sceaux. Rappelez-vous, moi, j'avais proposé des mesures, notamment d'instaurer une responsabilité pénale pour les mineurs, qui n'existe pas aujourd'hui, de mettre un âge moyen pour les rendre responsables de leurs actes. Aujourd'hui, ils ne sont pas responsables de leurs actes. C'est en fonction du discernement et du pouvoir d'appréciation du juge. Voilà. Qu'est-ce que ça traduit, cette recrudescence de la violence ? Donc, c'est de plus en plus violent et de plus en plus jeune. Ça traduit que finalement, il y a une forme d'impunité. Moi, lorsque j'étais garde des Sceaux, c'est vrai que j'avais proposé cette instauration de la responsabilité pénale des mineurs, qui m'a été retoquée par François Fillon à l'époque, mais j'ai créé des établissements pour mineurs. C'est-à-dire, c'est quoi ? En fait, c'est des prisons pour mineurs, mais là, il y a de la formation, il y a du soin, il y a de l'école.
Non, mais il n'y a pas seulement du répressif. Non, mais attendez, il y a 811... Rachida Dati, il y a 811 mineurs. Il n'y a jamais eu autant de mineurs en prison qu'aujourd'hui.
Exactement.
Et 450 dans des centres éducatifs fermés. Donc, c'est ça la réponse ?
Non, la réponse, elle est où ? D'abord, moi, j'ai souhaité qu'on ferme les quartiers mineurs. Parce que quand vous avez un mineur
dans
en détention...
Dans les prisons, les quartiers
oui, parce qu'ils étaient mélangés avec les majeurs, sans aucune obligation, ni de soins, ni de formation, ni d'école. Il faut mettre des structures de prise en charge. Donc, les établissements pour mineurs, je crois qu'il y en a à peine une dizaine aujourd'hui, et c'est nous qui les avons instaurés, les centres éducatifs fermés, parce qu'il y a non seulement une prise en charge, mais également un suivi. J'avais créé les internats d'excellence, j'avais instauré les peines planchers, et puis on avait l'outil supplémentaire, la suppression des allocations familiales, et tout ça a été supprimé par la gauche. On voit la recrudescence de la violence.
Mais qu'est-ce que ça changerait de baisser la majorité ? La responsabilité pénale. On peut aujourd'hui enfermer ou incarcérer ou mettre dans un centre éducatif un jeune dès 13 ans.
Oui, mais pour des actes criminels. Des actes criminels et dans certaines circonstances. Il faut, parce que vous pouvez avoir 17 ans et demi, avoir braqué votre prof et ne pas être poursuivi. Parce qu'on va dire, le discernement n'était pas vraiment établi.
Magistrat, vous aviez exercé par exemple l'excuse de minorité qui permet,
l'excuse de minorité,
dès 16 ans, de traiter un
mineur
comme un
majeur. Mais il faut extrêmement le motiver.
Il
faut extrêmement le motiver. C'est pour ça qu'en instaurant
les
peines planchers...
Donc les juges ne le font pas en fait.
Non,
très peu.
Parce que le code de procédure est très strict là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut adapter la justice à l'évolution des mineurs et de leur délinquance. Les actes auxquels nous assistons aujourd'hui sont quand même, c'est quasi de la barbarie. Donc il faut aussi adapter nos outils. Mais c'est pas, quand on dit instaurer une responsabilité pénale des mineurs, c'est pas de les mettre en prison à 12 ans ou à 13 ans. C'est de les prendre en charge. Et concernant les parents, il y a un article du code pénal où vous pouvez poursuivre les parents quand il y a une insuffisance liée à l'éducation des parents.
Donc c'est pas la peine d'en faire davantage.
Si, parce que cet article du code pénal pénal, il faudrait peut-être effectivement l'étendre, le revoir, parce que c'est très compliqué de pouvoir poursuivre les parents. Mais ils ont une responsabilité dans l'éducation de leurs enfants et dans leurs actes.
Donc étendre et revoir cette disposition qui permet de toucher les parents directement au portefeuille, puisque c'est
ça l'objectif. Mais aussi les poursuivre eux dans leur responsabilité, c'est pas que le portefeuille, mais les attraire à la justice. Vous savez, souvent, je vais vous donner juste cet exemple, ça m'est arrivé de faire comparaître des mineurs qui avaient commis des actes graves, et les parents ne viennent pas. Oui, ils sont envoyés avec un frère ou un voisin. Eh bien non, les parents doivent être responsables aussi de leurs enfants.
Vous faites
dans
confiance
leurs actes.
À Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur?
Écoutez, quand je vois les premières mesures de dire on va voir, on va essayer de comprendre, de savoir qui sont ces bandes, on le sait.
Il annonce un plan. Il annonce un plan. Mais donc il y aura un plan.
Ben oui, mais le plan. On sait déjà, mais on connaît. C'est quelque chose sur lequel on se bat depuis des années. Il faut prendre des outils qui sont aujourd'hui sur la table. Par exemple, réformer l'ordonnance de 45, moi je l'avais rédigée, elle est déjà sur la table du garde des Sceaux, si elle le souhaite.
Dernière question, Rachida Dati. Paris vous intéresse, on sait, vous êtes maire du 7e arrondissement.
Mais en deux secondes et demie, oui.
Bah oui,
Paris m'intéresse. Je suis maire du 7e, je suis conseillère.
Ça vous intéresse au point d'être candidate?
Je suis déjà dans le combat.
Est-ce que ça vous intéresse au point d'être candidate?
Paris m'intéresse vraiment au point de tout faire et pourquoi pas être candidate.
Merci beaucoup Rachida Dati d'avoir été ce matin sur RTL.
Rachida Dati qui renouvelle toute sa confiance à Nicolas Sarkozy après son renvoi en correctionnel. Sur la violence des mineurs, il faut adapter les outils de la justice sur les comportements des plus jeunes et les parents doivent être responsables de leurs enfants. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. À suivre dans notre journal de 8h, vous découvrirez une incroyable machine qui permet de déverrouiller les pompes à essence et de voler le carburant. Mais tout de suite, c'est un cynique qui surfe sur son... Non, qui revient avec son inattendu, ne surfe pas tout de
suite. Le surf, c'est tout à l'heure.
Mais oui.
Ah, vous êtes impatient, oui.
J'aime infiniment impatient quand je vous vois.
RTL dans 3 minutes, 8h.